auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait le 8 mars, mais je vais quand même vous parler des femmes. Je voudrais rendre hommage à quelques femmes de l'histoire du monde et je commencerai par évidemment une des plus emblématiques, c'est-à-dire Olympe de Gouges qui a été guillotinée par les révolutionnaires à l'époque parce que elle était révolutionnaire mais un peu plus que les autres et ça n'a pas plu aux machos de l'époque. Et puis je vous parlerai aussi de la Commune parce que la Commune a été un exemple qui dérange beaucoup le monde des bien nantis et bien installés. On a voulu gommer l'histoire de la Commune alors que c'est absolument extraordinaire ce qui s'est passé durant ces quelques mois, à savoir que spontanément, les ouvriers de Paris se sont organisés. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont laissé pleinement la place des femmes, tant pour la bagarre que d'ailleurs pour décider des choses. Et la plus connue d'entre elles, c'est évidemment Louise Michel, qui a été déportée en Nouvelle-Calédonie, et qui a pu s'intéresser à la culture kanak et a eu une action pédagogique extraordinaire durant quelques années qu'elle a passé là-bas. Donc, hommage à Louise Michel et toutes les autres. Et puis, beaucoup plus près de nous et vivante encore, je voudrais citer, parce qu'elles sont liées à l'histoire de l'agriculture et de ce qui se passe actuellement dans le monde, je voudrais parler de Aminata Traoré, qui a été ministre de la Culture, je ne sais plus de quel pays d'Afrique. Elle est malienne, sauf erreur, et qui est une des femmes remarquables de notre époque. Et puis, Vandana Shiva, scientifique nucléaire, qui, voyant ce qui se passait en Inde, a changé complètement sa façon d'agir et a lutté et lutte toujours pour que la paysannerie indienne soit mieux défendue. Et elle s'est opposée notamment aux organismes transgéniques. Donc voilà, on pourrait parler de beaucoup d'autres femmes, mais je m'en tiendrai à cela.
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
Et oui, Aragon avait raison, même si l'homme est discutable, l'homme Aragon est discutable, mais ce texte de Jean Ferrat est absolument formidable. Et je voudrais illustrer ce texte par un article qui est paru dans une publication de SOS Sahel. Sécurité alimentaire, une affaire de femmes. Levées à 5 heures du matin, leur première tâche de la journée sera de faire manger les enfants. Ensuite vient la corvée d'eau. 2 ou 3 heures de marche plus tard, sous une chaleur accablante, chargée de gros bidons de 5 à 10 litres, elles reviennent pour nettoyer le logis, préparer les prochains repas. Travaux champêtres, ramassage de bois de chauffe, cueillette, constitution collective dans le village, transformation du grain en farine, la plupart du temps, elles ne décident même pas de l'organisation de leur journée. Leur mari s'en charge. Autant dire que l'alphabétisation et la formation ne sont pas des priorités évidentes. Cette situation, est vécue depuis l'enfance, déjà sur les bancs d'école. Elles étaient moins nombreuses que les garçons, continuaient leur scolarité moins longtemps. Au moment de choisir un époux, si tant est qu'elles puissent le choisir, elles n'obtenaient aucun droit de propriété sur les terres et la maison. Quand il s'agissait de prendre des décisions, elles étaient rarement consultées ou écoutées. Pourtant, on le sait, elles sont un véritable moteur du développement. Les femmes travaillent plus que les hommes et, contrairement à eux, consacrent la quasi-totalité de leurs revenus à leur foyer. Les enfants en sont les premiers bénéficiaires, scolarité, frais de santé, alimentation, autant d'investissements qui installent une croissance économique à long terme. Par ailleurs, l'éducation des filles et des femmes offre de réelles solutions pour les problèmes de santé publique et de sécurité alimentaire. Dans la seule Afrique subsaharienne, envoyer les filles à l'école primaire sauverait 50 000 vies en réduisant de 70% la mortalité en couche grâce à des connaissances élémentaires. Si toutes les femmes terminaient le cycle primaire, 1,7 million d'enfants seraient sauvés de la faim, 12 millions si elles terminaient le cycle secondaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, plus de 70% des bénéficiaires des actions de SOS Sahel sont des femmes. La stratégie de SOS Sahel consiste à travailler avec les femmes et les hommes en concertation au cœur des villages pour valoriser le potentiel des femmes à deux niveaux. D'une part, augmenter leurs revenus en stimulant leur esprit d'entreprise et d'autre part, mieux les intégrer aux instances de décision, explique Rémi Emmerich, délégué général de SOS Sahel. Il est absolument nécessaire de leur donner les moyens de se faire entendre. Lorsqu'elles sont soutenues, éduquées et formées, les femmes sahéliennes réalisent des choses formidables. Pour elles-mêmes, leur épanouissement personnel, mais aussi pour leur communauté. Chaque jour, nous sommes étonnés de voir leur détermination et leur motivation pour changer les choses. Et cet article est paru donc dans la revue de SOS Sahel. En milieu rural au Sahel, les femmes doivent combattre le poids des traditions pour affirmer leurs droits et entreprendre. Je pense qu'il n'y a pas qu'au Sahel où des femmes doivent se battre pour se faire entendre, mais les choses avancent quand même. Je vais vous parler un petit peu de ce que dit le Canard enchaîné de la semaine à propos de publicité mensongère. Danone est pris en flagrant délit de mensonges gravissimes. Elle a fait toute une publicité autour d'un yaourt Danonino où elle fait référence à un petit dinosaure. Et il paraît, moi je ne l'ai pas vu, mais enfin qu'il est bourré de fruits tout autour de cette pub. Or, il n'y a pas gramme de fruits ni d'arôme naturel dans ce yaourt. Une entourloupe que ne digère pas l'ONG Food Watch, laquelle vient de lancer une pétition afin que Danone, qui fait partie des marques en lesquelles les Français ont le plus confiance, cesse d'induire le consommateur en erreur. L'agroalimentaire nous désinforme sans crainte d'être sanctionné, s'agace auprès du Canard enchaîné, un responsable de l'association. Danonino est un exemple caricatural de cette dérive. Il faut que Danone modifie son emballage. La réglementation européenne sur l'information du consommateur est pourtant claire. L'étiquetage d'un aliment ne doit pas suggérer la présence d'un ingrédient qui est en réalité absent. Pour se défendre, le géant français de l'alimentation a des arguments goûteux. Danone ne contient pas de fruits. C'est pour cela que l'information véhiculée par une représentation graphique est stylisée, est pertinente et loyale, puisqu'elle elle informe le consommateur au sujet du goût des produits présents dans chaque emballage. En Belgique, Danone a déjà dû modifier son packaging à la demande de la répression des fraudes. Danone, qui se proclame pionnier de la révolution alimentaire, a créé le yaourt aux fruits du futur. Miam, que c'est bon! Et puis, dans ce qui nous pend au nez, aux antipodes, les amphipodes, On a découvert qu'à 10 000 mètres au fond de la mer, des êtres qui n'ont jamais vu un être humain, qui n'ont jamais vu la lumière du jour, eh bien, sont pollués par des déchets de toutes sortes, et notamment ces affreux trucs chimiques qui nous pourrissent la vie. Mais comme il y a au fond de la mer des trésors immenses de pétrole et autres matières premières, on n'a pas fini de devoir se battre pour défendre la vie tout court, alors que là, ils sont en train d'agiter la possibilité de faire des profits formidables et de créer presque 1 million d'emplois avec toutes ces ressources qui sont au fond de la mer. Et évidemment, les chantres de cet Eldorado sont les patrons de Total, Pernod Ricard, Beneteau, Louis Dreyfus, armateur, etc. Et les amphipodes ont reçu le message 5 sur 5, dit Jean-Luc Porquet dans le Canard enchaîné. Voilà, dans Campagne solidaire du mois de février, je vous lis un article qui ça se passe en Ardèche. Un bel exemple de lutte sanitaire qui marche sans recours aux pesticides. En Ardèche, les châtaigniers vont mieux. Et pourtant, 2 ou 3 ans en arrière, on était inquiet avec la perspective de perdre entre 50 et 80% des récoltes pendant quelques années. Et les châtaignes, David, c'est comment cette année ? Quand vous voyez se mettre à briller les yeux de David Loupiac, castaniculteur, porte-parole de la Confédération paysanne d'Ardèche, quand ses mains deviennent fébriles, vous pouvez dire que ça y est, cette année, il y en a eu. Puis demandez-lui de vous emmener dans sa châtaigneraie. Il vous présentera ses arbres, un par un. En 2010, un petit insecte hyménoptère nommé Synips approche de la région, au rythme de quelques kilomètres par an. En 2011, les premiers signes de la contamination apparaissent. Le Synips pond ses œufs sur le bourgeon de l'arbre, des œufs qui, en éclosant, empêchent la floraison, la formation des fruits. L'Italie avait été contaminée la première en Europe via le Japon et la Chine. Les producteurs italiens réfléchissent et agissent depuis quelques années. Leurs pertes sont très importantes et ils constatent qu'aucune lutte chimique n'était efficace. Seule la lutte biologique s'avère possible au moyen d'un petit prédateur nommé Torimus. Autre hyménoptère originaire de Chine. Le Torimus pond ses œufs dans les larves de Synips au printemps. Dès 2005, les productrices et producteurs français s'organisent pour s'informer, communiquer et anticiper l'arrivée du Synips sur le territoire national. En 2007, en collaboration avec les Italiens, des lâchers de Torimus ont lieu sur les premiers foyers de Synips dans les Alpes-Maritimes. En 2010-2011, avec l'apparition des premiers foyers en Drôme Ardèche, un comité de producteurs et de pilotage national est créé sous la houlette de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Mobilisation de tous les acteurs. Des sites d'élevage sont désignés. Un comité de pilotage créé. Surtout, il y a mobilisation de tous les acteurs, chercheurs, transformateurs, chambres d'agriculture, forestiers, producteurs. L'État, malheureusement, n'accompagne pas cette démarche. Donc, il faut alors, comme en Corse, les Ardéchois lancent un appel aux dons via Internet et les médias plus traditionnels pour financer la campagne de lâcher. Cela fonctionne très bien. La mobilisation réunit les professionnels, institutionnels et nombre de citoyens solidaires. Grâce à cela, pendant 3 ans, les galles de Torimus sont récoltées pour un lâcher de l'insecte dans les châtaigneraies. Les pertes de récolte par le Sinus allaient de 20% dans les zones relativement épargnées à 80% dans les zones les plus touchées, selon les variétés. La lutte biologique connective a permis au Torimus de s'installer sur le territoire. Cette montée en puissance va permettre de rétablir un équilibre biologique à moyen terme. Depuis 3 ou 4 ans, les petites bêtes se sont adaptées, reproduites, ont gagné du terrain et fini par prendre le dessus sur le Sinips. La jolie récolte de la fin 2016 a démontré que quand on s'unit pour une même lutte, celle-ci porte ses fruits. Il faut juste se concerter et aller dans le même sens, commente David Loupiac. De surcroît, l'aide du Fonds national agricole de multiplication de risques, de lutte contre les risques sanitaires et environnementaux a permis aux productrices et aux producteurs limiter les pertes où ça va mal et d'importer et de maintenir la tête hors de l'eau en attendant des lendemains meilleurs. C'est un bel exemple de lutte sanitaire qui multiplie les recours et empêche d'utiliser les pesticides. Il faut s'enlever de la tête qu'on peut éradiquer un parasite, poursuit David. La seule solution est un recours à l'équilibre biologique avec une large concertation et une volonté générale qui va dans le même sens. Chacun donc peut jouer le jeu et la mobilisation de la société civile a pallié au manquement de l'État. On n'est pas encore vraiment sorti de la crise qui peut être aggravée par les aléas climatiques, mais on est sur la bonne voie, conclut-il. Cet article est signé Véronique Léon, qui est paysanne en Ardèche. Et un petit temps encadré, l'arbre du pauvre. Le châtaignier, c'est l'arbre du pauvre. Même si les conditions climatiques sont de mauvaise qualité, il donne quand même des fruits pour les humains et les animaux. Dans l'histoire, on n'a jamais connu d'année sans châtaigne. La production en Ardèche est de 4 000 à 5 000 tonnes récoltées par an. C'est 1 000 emplois directs et induits, dont 700 professionnels à temps plein ou partiel. Le reste se partage entre les transformateurs industriels, 3 entreprises artisanales importantes, la transformation fermière et les metteurs sur le marché. La filière locale est bien structurée avec un syndicat indépendant de productrices et producteurs, une appellation d'origine d'un AOP, Châtaigne d'Ardèche, et une interprofession qui réunit production, mise en marché et transformation. Donc là, on a un exemple de ce qui peut se passer dès que les gens se réunissent pour créer une nouvelle prospérité.
Tu sais, l'ami, c'est pas facile d'expliquer pourquoi on se bat. Ma campagne est loin de la ville, c'est dommage, on ne se connaît pas. Pourtant, chacun à notre façon, on se pose les mêmes questions. C'est le même vent qui nous malmène, deux maillons sur la même chaîne. Toi, tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi, c'est ce qui nous étouffe. 20 ans qu'on se bat à la campagne pour l'agriculture paysanne. Tu sais, chez toi, c'est comme ici, c'est pas les gens qui font les lois, c'est la finance et l'industrie, sans s'occuper du résultat. Nous, on laissera pas s'envoler pour des bénéfices à court terme. Tous nos savoirs accumulés, nos bonheurs de vivre à la ferme. Toi, tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi, c'est ce qui nous étouffe. On veut rester à la campagne, vive l'agriculture paysanne.
Amis auditeurs, nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, le mardi, sur FM+. Et je vous souhaite une très bonne semaine.
Des mercenaires prêts à tout produire pour pas cher. On préfère avoir des voisins que des gros troupeaux, des gros engins. Si tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. On voudrait vivre à la campagne de l'agriculture paysanne. La société qu'on nous prépare, au nord, au sud et au milieu, c'est du plastique et du cafard, et tout un tas de choses bien dégueu. Alors pense à moi si tu enrages de ce monde en déséquilibre. La bonne bouffe, les beaux paysages, c'est fait par des paysans libres. Si tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. 20 ans qu'on se bat à la campagne, vive l'agriculture paysanne.